30 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Israelis running for shelter in Tel Aviv and Jerusalem.
Los que sí están llegando ya en masa al Río de Janeiro, al Maracaná.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde. Bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer, direction le Mali, Michael. Le Mali en proie à de nouvelles violences.
Il y avait 5 ans après le début de ce qu'il faut bien appeler une guerre. Hein. Guerre contre les groupes djihadistes. Guerre qui plus est sur fond de rébellion Touareg. Et bien 5 ans après, le nord du Mali reste aujourd'hui encore sous la coupe des groupes rebelles, notamment dans la région de Gao. Près de 80 morts dans l'attaque d'un camp militaire la semaine dernière et des campagnes totalement hors de contrôle. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir Mickaël.
Alors vous êtes allé, Thibault, à la rencontre de ces milliers de Maliens qui fuient les combats. Reportage dans le camp de réfugiés de Mangaïsé, à la frontière entre le Niger et le Mali.
9000 réfugiés installés depuis 5 ans autour d'un village et des arrivées incessantes. Altinié a construit son abri de fortune il y a une semaine. Une clôture en paille tressée, une structure en bois et un toit en tige de mil pour abriter sa famille. Cet éleveur de la campagne de Ménaka au sud du Mali a tout perdu en quelques heures.
Les assaillants sont arrivés au milieu de la nuit. On s'est tous enfuis. On est partis dans la précipitation et on a eu très peur. Ils étaient une cinquantaine. Ils ont attaqué de tous les côtés. C'était difficile de les distinguer dans la nuit, de savoir exactement qui ils étaient et d'où ils venaient. Mais une chose est sûre, j'ai vu des Noirs, des Arabes et des Touaregs. Certains portaient des turbans. À chaque tir, à chaque fois qu'ils nous visaient, ils criaient « Allah Akbar ». Ils ont tué 7 personnes devant mes yeux. Et pour le moment, il y a des villageois dont on a perdu la trace. Je suis marié à 3 femmes. J'ai réussi à en sauver une, mais je ne sais pas où sont les 2 autres. J'ai aussi perdu 6 enfants dans la fuite. J'ai décidé de rester ici, parce qu'avec ce qu'on a vécu, je n'ai aucun espoir de retour.
Voilà, aucun espoir de retour hein, pour Altinié, et d'ailleurs comme pour l'immense majorité des réfugiés de Mangaïsé, Thibault.
Ce que vous entendez, c'est une télévision en plein milieu de la brousse avec une antenne satellite alimentée par un panneau solaire, des vélos, une boutique et une petite maison. Mohamed Youssouf est désormais chez lui, à Mangaïsé. La raison de son exil, c'est sa peau rouge, selon ses propres termes. Mohamed Youssouf est Touareg. Le gouvernement malien le soupçonne de soutenir le MNLA, le mouvement indépendantiste Touareg, au nord du pays.
On m'a bien frappé là, de coups d'armes avec des coups de poing. Pour rien du tout. C'est pour cela que je suis là, ici. On m'a laissé là-bas. Ils croyaient que moi, je suis mort.
Qui c'est qui vous a fait ça?
Ce sont les militaires maliens. Je suis un peau rouge, Touareg. C'est pour cela qu'ils ont fait ça. Mais là, je ne vais pas retourner. Parce que s'il y a un problème encore, ils vont me faire ça. Ici, c'est la frontière. Toujours, on a peur.
Vous avez peur de quoi?
Il y a les djihadistes, là. Il y a même des bandits armés. Seulement mon pays a un problème maintenant, je ne peux pas retourner. Il faut qu'il y ait toute la paix.
Et une paix, hein, justement, que les réfugiés maliens ont apparemment trouvée au Niger. Et ce camp de Mangaïsé est désormais une vraie petite ville. Hein.
Une petite ville avec ses toilettes publiques, ses puits, ses associations et ses 3 écoles primaires, vous l'entendez. 700 élèves, des classes de tous les niveaux, des bâtiments en dur. L'école annexe a été installée il y a 4 ans dans l'urgence. Elle est désormais au centre du camp de réfugiés. Alassane Seibou est le directeur de l'établissement.
Il y a les locaux qui commencent à fréquenter, donc ce qui veut dire que l'école ne peut pas disparaître complètement. Au départ, la ville n'était pas là, maintenant la ville se construit encore un peu au-delà de l'école. Même parmi les réfugiés, il y a certains parents qui disent que vraiment, il y a où là la sécurité, c'est là où il y a la vie. Donc, c'est fort possible que ces gens-là puissent rester. Et surtout, la pérennité de l'école, on va le voir avec les bâtiments qui commencent à être construits. Donc, ce n'est plus des trucs d'urgence, ce sont des trucs de développement qui sont en train d'être faits. Vraiment, on peut espérer que l'école va, la pérennisation est possible.
Et le Haut Commissariat aux réfugiés fait rigoureusement le même constat.
Un constat et des actes. Le HCR travaille désormais sur un projet d'urbanisation. L'agence de l'ONU compte remplacer les abris de fortune par des maisons en banco. Le développement donc plutôt que l'urgence. La raison, c'est le manque de stabilité à court terme au Mali. Abdoulaye Tambari Agali est responsable du bureau du HCR dans la ville voisine de Wallam.
Il y a toujours des bandits qui ont des armes et souvent qui brutalisent la population et qui font des assassinats ciblés, les conflits intercommunautaires aussi, est l'une des raisons pour lesquelles les réfugiés continuent d'arriver. Il n'y a pas la présence effective de l'État, il y a toujours des endroits, des brousses où les bandits sont les maîtres. La guerre n'est pas encore finie, parce que jusque-là, l'État n'est pas vraiment présent au Nord-Mali, il n'a pas pris le contrôle du Nord-Mali.
Et conséquence de cette guerre, les réfugiés n'ont jamais été aussi nombreux à Mangaïsé. Depuis près de 3 ans, le HCR finance un programme de retour volontaire. Les réfugiés étaient au début un peu moins de 2000 à accepter le retour au pays. Ils sont aujourd'hui à peine une centaine.
Thibault Lefebvre, de retour du camp de réfugiés de Mangaïsé à la frontière nigéro-malienne. Merci beaucoup Thibault.
Direction maintenant le Tamil Nadu, Michael, cet état du sud de l'Inde où des milliers d'habitants manifestent depuis dimanche dernier pour exiger le maintien du Jallikattu.
Oui, le Jallikattu, un rituel d'origine tamoule, vieux de plus de 5 siècles et célébré chaque 15 janvier lors de la fête de Pongal, dans une ambiance en général survoltée, comme ici dans la ville de Madurai. Alors de quoi s'agit-il, Nicolas ? Il s'agit d'une fête en l'honneur de l'agriculture et du bétail. Une fête en réalité interdite depuis 2014 par la Cour suprême indienne sous la pression de puissantes associations de défense des animaux. Car Jallikattu signifie littéralement « pièce d'or nouée » en référence à la récompense promise aux gagnants et qui est nouée aux cornes du taureau que les volontaires doivent maîtriser à main nue pour montrer leur courage. Et il en faut, hein, car on lâche les taureaux dans un espace clos, urbain de préférence, animaux excités par les cris des centaines de spectateurs, par les couleurs vives que portent les concurrents et par les innombrables coups de trique, voire coups de pique qui leur sont assénés. Et c'est précisément ce qui a révolté les associations indiennes de défense des animaux qui ont donc obtenu gain de cause, fin de la tradition, ou alors au risque de finir pour quelques heures ou quelques jours derrière les barreaux, ce qui est arrivé à plus de 200 personnes dimanche dernier dans cette ville de Madurai. Or, contrairement à la corrida, par exemple, l'animal n'est jamais tué, jamais de mise à mort. Les seules victimes, en fait, sont humaines. 2 participants morts écrasés le week-end dernier. Et la résistance pour la sauvegarde de ce patrimoine, c'est ce qui est dit sur place, passe maintenant par les réseaux sociaux, notamment Twitter, avec le hashtag #SaveJallikattu, qui explose littéralement les compteurs indiens depuis 8 jours maintenant.
Et pour finir, hommage ce soir, Michael, à un grand musicien, batteur de rock, disparu ce week-end.
Jackie Liebetzheim. C'était son nom, batteur du groupe allemand Can. Bonsoir Cyril Sauvageau en direct de Berlin.
Bonsoir.
Alors Jackie Liebetzheim n'était pas forcément connu du très grand public, mais il était pourtant, Cyril, un artiste mythique et pas seulement en Allemagne.
Oui, il faisait partie de ces rares musiciens dont on peut dire qu'ils ont révolutionné la pratique de leur instrument. Son jeu de batterie était unique en son genre, rien à voir avec ce qui se faisait dans le rock à l'époque. Cette époque, pour resituer, c'est le début des années 70. En Allemagne, loin des projecteurs, une poignée de têtes chercheuses commence à dynamiter les codes en vigueur dans le rock, des groupes comme Kraftwerk, Faust et surtout Can, 4 musiciens originaires de Cologne, bientôt réputés pour leur style novateur, quelque part entre Jimi Hendrix, le Velvet Underground et le jazz le plus libre. À la batterie, c'est un batteur de jazz, justement. Il a joué auparavant avec Chet Baker et beaucoup d'autres. Il s'appelle Jackie Liebetzheim.
Extrait de Cannes 1972, avec déjà ce jeu de batterie inimitable, Cyril.
Oui, son originalité, sa signature, c'est ce jeu hypnotique et répétitif qui lui vaudra le surnom de métronome humain. Liebetzheim est tout à fait capable de jouer les rythmes les plus complexes, mais son truc, c'est plutôt de tenir le tempo comme une machine. Il est capable de marteler le même rythme de façon imperturbable pendant les longues improvisations du groupe. Il aime aussi se démultiplier en studio, en enregistrant et en repassant en boucle toutes sortes de percussions, y compris sa propre voix. Thank you. Aujourd'hui, ce genre de rythme fait partie du paysage, mais n'oubliez pas que nous sommes dans les années 70, avant la techno, le rap, les rythmes africains, brésiliens sont encore rares dans le rock, et Kahn va littéralement défricher le terrain, inventer une musique qui s'apparente à une transe collective, et on en entend aujourd'hui encore les échos dans beaucoup de musiques actuelles.
Et raison pour laquelle, hein, Cyril, ce groupe et ce batteur sont devenus légendaires et continuent d'inspirer 40 ans après.
Et à défaut d'avoir connu le succès populaire, Kahn a fait naître une multitude de vocations et ouvert un chemin pour toutes les formes de rock les plus libres. Il suffit de voir depuis ce matin les nombreux hommages sur les réseaux sociaux. Le chanteur du groupe Franz Ferdinand, par exemple, écrit « Je ne me lasserai jamais de t'écouter jouer ». Les musiciens de Radiohead, Sonic Youth, Portishead et tant d'autres ont tous été marqués par ce groupe et ce batteur. Et le plus frappant, c'est la modernité de cette musique quand on l'écoute aujourd'hui. Exemple, ce morceau de 1971 qui pourrait tout aussi bien dater des années 2000.
Hommage trop court à Jackie Liebezeit, hommage signé Cyril Sauvageau en direct de Berlin. Merci Cyril et Nico, à demain.
À demain, Michael.